Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire Médici Repères. Donc, c'est un webinaire que nous avons conçu avec nos deux réseaux métiers pour vous proposer tout au long de l'année 2023 quatre séances autour de thématiques aussi variées que nos pratiques quotidiennes de l'édition et nos environnements de travail. Alors, pour ce premier webinaire, je vais tout de suite passer la parole à Basile Bayou, qui est coordinateur du réseau Repères et qui va vous présenter le webinaire et l'intervenant. Basile, c'est à toi.
Merci Céline, bonjour à toutes et tous. Bon, je suis ravi de faire ce premier webinaire Repères et Médici. Bon, voilà, c'est le résultat d'un travail conjoint entre nos réseaux et je trouve que c'est vraiment chouette qu'on puisse faire ça aujourd'hui avec Médici. Donc, au nom de Repères, bah, merci. Et donc, bah, ce premier webinaire est consacré donc, à l'accès et à la réutilisation des images dans des publications scientifiques. Bon, c'est un sujet qui nous intéresse toutes et tous, notamment quand on travaille dans l'édition et la diffusion de revues, quand on est confronté à la question des images. Donc bah, aujourd'hui, voilà, l'idée c'était de faire un état des lieux, de regarder quelques cas pratiques et puis voilà, de parler de stratégie concernant les images. Donc aujourd'hui, bah, on accueille Damien Peterman qui est là à côté de moi. Que je remercie d'avoir voilà de venir présenter aujourd'hui ce webinaire. Donc bah, Damien tu es docteur en géographie et aménagement et tu travailles comme ingénieur d'études au sein du département d'appui à la recherche et au projet à la bibliothèque universitaire ici à Lyon 3. Et en fait bah, voilà depuis 2010 les recherches de Damien l'ont amené à réfléchir à la question des images, parce que du coup Damien s'est intéressé à l'iconographie de Lyon entre le 17e et 20e siècle. Voilà, ce qui a confronté Damien donc à la question des images et de leur réutilisation. Et par ailleurs, Damien a eu plusieurs expériences dans des musées.
Merci de la réponse et puis je reviens vers toi.
Ah, voilà, je me suis permis de désactiver le son, pardon. Et voilà. Et donc, bah voilà. Damien, je te cède tout de suite la parole pour une présentation sur l'accès et la réutilisation des images dans les publications scientifiques.
Ouais, merci. Oui, alors oui, pour continuer la présentation de Basile, merci Céline, merci Basile. Effectivement, par mes recherches sur l'iconographie ancienne de Lyon, j'ai tout de suite été confronté aux questions d'accès et de réutilisation, les liens avec les institutions patrimoniales. J'ai moi-même aussi travaillé en musée à Lyon sur ces questions et je suis aussi impliqué comme Wikimédien depuis 5-6 ans dans le groupe lyonnais. Donc, ça permet d'avoir finalement plusieurs expériences croisées, à la fois en tant que chercheur, doctorant, en tant que Wikimédien qui accompagne des institutions patrimoniales sur les questions d'ouverture et maintenant dans mon nouveau poste en tant que chargé d'appui à la recherche en bibliothèque universitaire. Et j'ai aussi enseigné pendant 5 ans un cours sur cette question d'accès et de réutilisation des images en géographie, en licence 3. Donc aujourd'hui, la présentation que je vais vous montrer, elle s'inspire beaucoup de ce cours, hein, avec toutes les questions, bien sûr, d'actualisation des informations, puisque c'est un sujet qui est en perpétuelle évolution, notamment sur le plan législatif et des pratiques. Voilà, donc on va commencer par... quelques mots sur le plan. Donc la présentation aujourd'hui, elle sera en trois grandes parties. Tout d'abord, faire le point sur où on en est aujourd'hui sur les questions de cadre juridique, donc tout ce qui est évolution législative, ce que dit la loi en matière de droit d'auteur et de réutilisation. Quelques initiatives intéressantes qui favorisent l'ouverture des images, les bonnes pratiques, notamment au niveau des institutions patrimoniales. Et puis, un point sur ce qui est ouvert et réutilisable, c'est-à-dire les licences, les endroits où on peut trouver des images dans des licences qui permettent une réutilisation assez facilitée de ces contenus. On verra aussi quelques cas pratiques liés vraiment à l'usage d'images dans des publications scientifiques, avec bah, des différents points de vue côté éditeur, côté chercheur, côté institution patrimoniale ou agence d'image. Alors, je précise tout de suite que je suis ni juriste ni éditeur, mais que à travers mes différentes expériences, j'ai quand même pu échanger avec pas mal de monde. Mais ce sera intéressant tout à l'heure dans la partie échange de pouvoir revenir sur aussi vos expériences à vous en la matière. Et puis, je terminerai la présentation avec un certain nombre de bonnes pratiques et recommandations qui ne sont pas là comme des obligations, évidemment, mais plutôt réfléchir à ce qui peut être amélioré, notamment en matière d'information, pour favoriser des usages qui soient à la fois respectueux du cadre juridique dans la mesure du possible et également qui simplifient le métier de chacun dans les échanges qui concernent des publications scientifiques. Alors, tout d'abord, quelques points sur le cadre juridique. Effectivement, le droit d'auteur en France, il ressort de la propriété littéraire et artistique et il se décompose en deux grandes parties. Tout d'abord, le droit moral, qui concerne en fait tout ce qui est l'attribution d'une œuvre à son créateur et l'intégrité. Et ce droit moral, spécifiquement dans la loi française, il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible. Ça veut dire qu'on ne peut jamais le céder. Donc, il continue à exister jusqu'à l'éternité, on va dire, hein, tant que la loi est comme ça. Et il y a une deuxième partie, c'est le droit patrimonial, qui lui concerne tout ce qui est droit d'exploitation, notamment droit d'exploitation commerciale. Et celui-là, il y a une durée limitée dans le temps qui est liée à la mort de la personne, du créateur ou de la créatrice. Et ça, on verra tout à l'heure qu'une fois que ce droit patrimonial a expiré, l'œuvre tombe dans le domaine public, enfin, s'élève dans le domaine public, on peut le dire de plusieurs manières, et ça permet une réutilisation beaucoup plus large. Quelques mots aussi sur le fait qu'il faut que la création ait été mise en œuvre pour qu'il y ait protection. On ne peut pas simplement protéger des idées ou des concepts tant qu'ils n'ont pas été transformés en une création. Alors, cette création, ça peut être très large, hein, puisque aujourd'hui, avec le numérique, ça peut être des images, des logiciels, des jeux vidéo, etc., qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. Je précise que tous les liens là qui sont dans le diaporama, ce sera accessible. Hein, je déposerai mon diaporama en ligne dans quelques jours. Mais je vous ai mis pas mal de liens vers des textes de loi aussi qui sont à connaître sur la question. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit point-là juridique, il y a un constat qui ressort, et je pense que tout le monde s'en rend compte depuis plusieurs décennies, mais encore plus depuis 15 ans à peu près avec le développement du web, c'est qu'il y a énormément d'images maintenant qui circulent sur Internet, dans des réseaux sociaux, dans des collections patrimoniales numérisées, tout ce qui est presse en ligne, tout ce qui est revue, tout ce qui est blog, ça fait énormément de visuels. Et on se rend compte qu'en fait, la loi, elle n'a pas suivi les pratiques. Et donc, ça pose pas mal de problèmes parce que si vous regardez à certains endroits, je pense notamment aux réseaux sociaux, il y a énormément d'usages d'images qui sont hors la loi, en fait, si on prend le strict sens juridique, puisqu'il n'y a pas de demande d'autorisation. Ça pose des problèmes. Et il y a aussi, c'est un vrai enjeu politique, et notamment en France, parce qu'on a, donc au niveau du ministère de la Culture, hein, qui réfléchit à ces questions, un certain nombre de lobbying dans les deux sens, notamment d'un côté ceux qui gèrent les droits des auteurs, donc les sociétés de gestion collective, les ayants droit et les artistes, par exemple, qui essayent, c'est logique hein, dans leur point de vue, de rendre la loi plus contraignante et de, par exemple, limiter les possibilités de réutilisation d'images sans autorisation. Ce qui a d'ailleurs mené à l'adoption de la directive copyright, directive européenne sur le droit d'auteur en 2019. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, on a des associations, notamment comme Wikimedia France, comme Communia au niveau européen, qui défendent, elles, plutôt le domaine public et essayent d'éviter qu'il y ait trop de restrictions sur les usages, hein, sachant que la durée de protection du droit patrimonial dans le monde ces dernières décennies est allée que dans un sens, hein, c'est-à-dire qu'elle a été prolongée, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de temps à attendre avant qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Et ça rejoint l'enjeu des communs, c'est-à-dire théoriquement, le domaine public, c'est ça, c'est le fait que à partir d'un certain temps, on considère que l'œuvre, elle doit être accessible à tout le monde, réutilisable sans restriction, notamment commerciale. Justement, le domaine public, comment ça fonctionne? Dans la loi française, c'est à partir de 70 ans après la mort de l'auteur ou de l'autrice. Donc, c'est une durée quand même assez longue, hein, puisque si quelqu'un a créé une œuvre en début de carrière, ça peut en gros faire plus d'un siècle avant qu'elle entre dans le domaine public. Qu'est-ce que le domaine public? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit moral continue à exister, y compris quand l'œuvre est dans le domaine public. Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours créditer correctement, mentionner le nom de l'auteur et d'autres informations également. Et puis, il y a le respect de l'intégrité de l'œuvre qui, là, est plus difficile à évaluer. Mais théoriquement, les ayants droit peuvent s'opposer à une réutilisation d'une œuvre dans le domaine public s'ils considèrent que, c'est justement, il y a atteinte au respect de l'intégrité de l'œuvre. Donc ça, après, ça se juge au tribunal. Hein. Ce sont des litiges, mais ça peut exister. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire avec une œuvre dans le public. Il faut quand même respecter le droit moral. Et si on est dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'auteur est encore vivant ou il n'est pas mort depuis plus de 70 ans, bah, l'image, elle garde sa protection et notamment le droit patrimonial. Donc, on va parler là d'image protégée. Hein. On utilise aussi parfois sous-droit, mais disons que sous-droit est un peu ambigu parce que des images peuvent être aussi sous-droit sans forcément qu'il y ait autant de restrictions. Et puis, il y a un autre élément dans la loi française qui est aussi problématique pour les images, c'est que contrairement au texte, où là, vous pouvez faire des citations, et c'est beaucoup utilisé dans les publications scientifiques, eh bien, au sens strict juridique, on ne peut pas reproduire une image dans son intégralité ou même en termes d'extrait sans autorisation si elle est protégée par le droit patrimonial. Donc ça pose de vrais problèmes en termes de reproduction d'images. Et on voit qu'il y a vraiment un décalage entre d'un côté la loi et de l'autre côté les pratiques. Et que justement, les dernières évolutions législatives ont essayé un peu de résoudre ça, mais sans forcément y arriver complètement. Autre élément également qu'on voit souvent, c'est que la mention copyright ou le symbole copyright ne correspond à rien dans le droit français, c'est du droit américain. Donc effectivement, ça peut permettre de marquer visuellement le fait que l'œuvre est protégée, mais comme on a pu le voir tout à l'heure, en fait, l'œuvre elle est protégée de facto dans le droit français à partir du moment où elle a été créée. Il n'y a pas de formalité à faire, il n'y a pas de dépôt à faire et il n'y a pas de copyright en tant que tel qui s'applique. Donc, effectivement, ça, c'est bien à remettre en parallèle. Hein, chaque pays a son propre droit. Il y a une harmonisation au niveau européen, mais on voit souvent le copyright qui correspond plutôt à une vision américaine ou britannique. Alors, il y a aussi autre chose à avoir en tête, c'est qu'on distingue souvent usage commercial, usage non commercial. Effectivement, ça peut paraître à première vue assez évident. Usage commercial, c'est quand il y a derrière de l'argent hein, sur une transaction, la ressource est payante, on fait payer une application mobile, un accès à un site web ou un site web qui génère de la publicité, etc. Tout ça, ça rentre dans l'usage commercial. Et les usages non commerciaux, c'est tout ce qui est gratuit d'accès. Mais le problème, c'est que dans la loi française, il n'y a jamais de définition claire de ce qu'est commercial. Et ce qui fait que des ayants droit, des sociétés de gestion collective, des institutions patrimoniales peuvent avoir une vision du commercial qui est beaucoup plus restrictive que celle qu'auront des chercheurs, des éditeurs ou d'autres personnes. Et par exemple, moi, je trouve qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire une distinction entre lucratif et non lucratif parce que un ouvrage, un document peut être considéré comme commercial, alors qu'en fait, il génère des revenus uniquement pour son impression et qu'il n'y a pas de gain derrière. Donc, ça aussi, c'est un débat qu'on a avec les institutions patrimoniales, notamment, qui, pour certaines, ont une vision assez restrictive. Et dans la pratique, on observe quand même une tolérance générale sur le web quand il y a un usage non commercial. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne saurais pas évaluer, mais je pense que largement plus de la moitié des usages d'images sur Internet ne respectent pas la demande d'autorisation pour des images protégées par le droit patrimonial, mais il y a une certaine tolérance de la part des ayants droit, des endroits, avec toujours un risque, si on respecte pas la loi sur ce plan-là, toujours un risque que vous tombiez sur des ayants droit qui, eux, sont intransigeants et qui vont traquer, y compris des usages non commerciaux. Hein. Je pense que, voilà, j'ai mis en exemple la société Moulinsart qui gère les droits d'Hergé, qui est quand même connue depuis pas mal d'années pour aller traquer les usages, y compris de particuliers, d'associations, qui a d'ailleurs perdu en justice il y a quelques années sur un cas qui relevait de la parodie et qui permettait donc un usage sans autorisation. C'est une des rares exceptions au droit d'auteur. Et puis, il y a des grandes sociétés comme Getty Images ou l'AFP qui maintenant utilisent carrément des robots ou en tout cas des sous-traitants qui permettent d'aller numériquement vérifier quels sont les fichiers, où sont utilisés leurs fichiers et vérifier si les personnes ont bien payé des droits d'exploitation. Alors, aussi, un autre cas un peu particulier, c'est la photographie d'architecture ou de sculpture dans l'espace public et ce qui ressort de la liberté de panorama. Donc, il y a une évolution il y a quelques années, hein, en 2016, avec la loi République numérique, qui a élargi un peu les possibilités. Le principe, c'est que, comme pour n'importe quelle création originale, un bâtiment ou une sculpture qui se trouve dans l'espace public est protégé par le droit d'auteur. Ce qui veut dire qu'y compris son image, sa reproduction est protégée par le droit d'auteur. Et la règle, c'est qu'il faut pour cela qu'elle soit le sujet principal de l'image. Et ce que dit la loi aujourd'hui, c'est que donc, si l'œuvre est dans le domaine public, pas de souci, on peut réutiliser son image sans demande d'autorisation. Si elle est encore sous droit, donc par exemple un bâtiment qui a été construit par quelqu'un qui est mort il y a moins de 70 ans ou qui est encore vivant, et bien là, il y a une distinction toujours entre usage commercial et usage non commercial, avec une petite subtilité, c'est que ça s'applique aux personnes physiques, pas aux associations, pas aux collectifs. Donc, il faut que ce soit une photographie d'une personne physique utilisée dans ce cadre-là. Et donc là, l'usage non commercial est autorisé, mais l'usage commercial n'est pas autorisé sans autorisation du titulaire des droits. Donc ça aussi, hein, au niveau européen, la loi n'est pas la même dans les différents pays. Et en France, on est encore sur une vision quand même assez restrictive qui, par exemple, empêche de mettre dans Wikimedia Commons des photos de bâtiments ou de sculptures protégées par le droit d'auteur. Un autre élément propre au droit français qui nous intéresse un peu plus en termes d'université, de recherche, c'est l'exception pédagogique et de recherche, qui est l'une des rares exceptions au droit d'auteur et qui est quand même très encadré. Alors là, je vous ai mis le texte vraiment complet du sous-article de loi qui parle de cette exception pédagogique et de recherche. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça marche uniquement quand on est dans un système fermé, donc intranet ou pas en ligne, et uniquement également si la communauté visée, ce sont des chercheurs, des étudiants, mais pas du public au sens large. Dès que vous mettez en ligne un document accessible à tout le monde, vous ne pouvez plus relever de l'exception pédagogique et de recherche. Et ça aussi, c'est un vrai frein aujourd'hui pour les chercheurs, parce que ça veut dire que des dépôts dans les archives ouvertes, mettre en ligne un diaporama de conférences, de séminaires, etc., eh ben, on n'est plus dans l'exception pédagogique et de recherche, donc on ne peut plus utiliser aussi facilement des images sans demander l'autorisation. Parce que c'est tout l'intérêt de l'exception pédagogique et de recherche, c'est qu'elle permet de faire des cours et de faire de la recherche sans avoir à demander systématiquement l'autorisation pour des images encore protégées. Une évolution récente qui a quand même bouleversé pas mal de choses, même si on a encore un peu de mal à en voir les effets aujourd'hui, puisque c'est récent, ça date d'il y a 3-4 ans, c'est la directive européenne sur le droit d'auteur qui a suivi un assez long parcours législatif, hein, puisque vous voyez, elle avait d'abord été rejetée une première fois par le Parlement européen, puis elle a été adoptée en 2019, donc il y a 4 ans. Avec, je vous ai mis ici le détail des votes, et notamment le fait que la France, tout parti confondu, quasiment a voté en faveur de cette directive qu'on appelait directive copyright. Et ces dernières années, la France a transposé la plupart des articles dans sa loi nationale, comme c'est le cas pour n'importe quelle directive. Pas toutes, hein. Par exemple, il y avait un article sur le fait qu'une œuvre qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public, y compris ses reproductions numériques. Ça n'a pas été transposé, alors ça ne change pas grand-chose en fait à ce stade. Et l'objectif, c'était de défendre les droits d'auteur au niveau européen, notamment par rapport aux GAFAM et par rapport à tout l'environnement numérique. Donc aussi une vision assez restrictive. Hein, et puis moderniser le droit d'auteur à l'ère numérique, mais on peut dire que ça a effectivement des effets. Par exemple, des nouvelles responsabilités pour les hébergeurs de contenu en ligne, mais ils sont aussi passés, par exemple, à côté d'un quelque chose qu'on voit en ce moment, c'est toute la question des intelligences artificielles. La directive Copyright n'a pas du tout anticipé ce qui allait se passer avec les corpus utilisés par des intelligences artificielles. Et dernier élément d'actualité, c'est qu'actuellement, là, depuis 2-3 ans, il y a en négociation, en réflexion, un projet de licence collective étendue, spécifiquement adapté aux questions de publication scientifique, c'est-à-dire qu'avec cette licence collective étendue, qui est permise par la directive européenne et par la loi de programmation de la recherche en 2020, l'idée, c'est de permettre l'utilisation d'images encore protégées par le droit d'auteur patrimonial dans des publications scientifiques disponibles en ligne en open access, sans avoir à demander l'autorisation ou même d'avoir à payer une redevance. Donc, si c'est mis en place, ça sera un grand changement dans les pratiques, hein, à la fois côté éditeur, côté chercheur, et sans doute aussi un intérêt renouvelé pour l'open access, hein, parce que ça concernera uniquement les publications gratuites en open access. Mais à ce stade, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'informations. Je vous ai mis le lien, là, il y a une étude en 2022 à partir de corpus de publications scientifiques en open access pour évaluer le nombre d'images qui seraient concernées. Et les négociations sont toujours en cours entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les sociétés de gestion collective principales. L'idée, c'est qu'en fait, ce serait une licence collective. À partir du moment où il y aura négociation, on considérerait par défaut que toutes les images protégées par le droit patrimonial sont concernées, sauf si les ayants droit font une démarche pour dire « moi, je ne veux pas que les images dont je possède les droits rentrent dans le cadre de cette licence collective ». Mais par défaut, ça devrait permettre quand même un usage beaucoup plus facilité. Un tableau pour récapituler ce que j'ai présenté. Donc, les deux cas à distinguer, c'est déjà est-ce que l'image est dans le domaine public ou pas. Donc, la fameuse règle des 70 ans. Il y avait quelques exceptions qui étaient liées aux Première et Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, ça ne concerne quasiment plus personne. Donc on peut rester sur cette idée de 70 ans après la mort de l'auteur, sachant qu'ici je ne rentre pas dans le détail, mais pour des publications type presse, carte postale, etc., on a souvent la règle du 70 ans après publication, mais ça après c'est des cas assez spécifiques et il faut vraiment rentrer dans les détails. Et donc quand l'auteur est encore vivant ou mort depuis moins de 70 ans, là il y a deux possibilités. Soit il a choisi une licence ouverte, libre, qui permet une utilisation quand même, par exemple, gratuite, avec certaines conditions. Donc là, il faut se reporter à cette licence. Et puis, sinon, on est dans le cas du tout droit réservé, de la protection totale par le droit d'auteur patrimonial. Et dans ce cas-là, reproduction interdite, sans demande d'autorisation. Il est possible que les ayants droit, les sociétés de gestion collective ou les autres titulaires de droit fassent payer une redevance pour la reproduction. Et puis, petite spécificité, c'est pour ça que j'ai mis un astérisque, c'est que domaine public, malheureusement, dans la pratique, ne veut pas dire toujours réutilisation libre et gratuite. Certaines institutions patrimoniales ont le droit, elles sont autorisées par la loi, à faire payer une redevance, y compris sur des images du domaine public. C'est une exception à la réglementation sur l'open data. Il y a uniquement les bibliothèques, musées, archives et bibliothèques universitaires qui ont cette possibilité de faire payer une redevance pour en fait couvrir leurs frais de numérisation. Alors, c'est une exception, hein. Le principe, ça reste la gratuité des données publiques. Et certaines institutions patrimoniales ont fait ce choix-là. Mais actuellement, en France, beaucoup d'institutions patrimoniales continuent à faire payer des redevances. Ce qui est un petit peu absurde parce qu'on a maintenant quelques études qui ont montré que ça coûtait plus cher de faire payer une redevance si on compte le temps que ça prend aux agents pour faire payer des factures, pour faire toute la procédure, pour récolter quelques dizaines d'euros qui à la fois coûtent aux chercheurs en amont et coûtent en termes de temps aux institutions. Alors, j'entre maintenant dans la question des initiatives sur l'accès et la réutilisation des images, avec trois grandes initiatives qui me semblent importantes à présenter. Tout d'abord, le mouvement OpenGLAM, qui est un mouvement international qui a en fait été créé, lancé par différents collectifs, qui a abouti en 2020 à une déclaration OpenGLAM. Donc OpenGLAM, l'idée, donc GLAM, ça veut dire Galleries, Libraries, Archives, Museums. Et l'idée, c'est d'encourager ces institutions patrimoniales à ouvrir le plus largement possible leurs collections numérisées, notamment en reconnaissant le domaine public et en reconnaissant aussi tous les usages possibles qui ne sont pas uniquement de la publication scientifique. Il y a plein d'usages possibles aujourd'hui avec le numérique. Et je vous renvoie ici notamment à l'OpenGLAM Survey, qui est un répertoire depuis 5 ans des institutions qui ont ouvert leurs collections, soit totalement, soit partiellement. Et puis, il y a un blog multilingue OpenGLAM Medium qui permet d'avoir des retours d'expérience sur ces questions en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Deuxième initiative intéressante, le programme de recherche image-usage de l'INHA, qui a eu lieu entre 2017 et 2019 et qui a continué aujourd'hui sous une autre forme. Donc, l'idée, c'était de faire le point sur ce qui se passe aujourd'hui en termes d'usage d'images patrimoniales, notamment pour l'histoire de l'art. Et ça a donné lieu à plusieurs publications qui sont très intéressantes. Le rapport en 2018, Droit des images, histoire de l'art et société, dont je vous conseille vraiment la lecture parce qu'il part de retours d'expérience de chercheurs et d'éditeurs notamment. Un colloque international auquel j'avais participé, dont vous avez les captations en ligne. Et puis, notamment en 2021, un guide destiné aux chercheurs en histoire de l'art pour la réutilisation des images. Et actuellement, avec Martine Noyel, on travaille sur un autre guide à destination des institutions patrimoniales. Troisième initiative, Wikimedia France, qui œuvre depuis des années sur ces questions et qui organise des journées culture numérique. Il y en a déjà eu 3, la prochaine c'est dans quelques semaines à Paris, et il y a eu l'année dernière un rapport sur l'open content. Donc open content, ça veut dire c'est plus que de l'open data, ça veut dire l'ouverture des contenus, et donc également création du label culture libre dont les premiers lauréats seront présentés dans quelques semaines, et également un observatoire de l'open content en France. Donc ça, ce sont des initiatives à suivre. En termes de réutilisation possible, maintenant je voulais quand même rappeler que la France s'est engagée dans une grande politique d'open data depuis la loi République numérique et la loi Valter, ce qui fait que tout ce qui est produit par des administrations publiques aujourd'hui rentre dans ce cadre en termes de données publiques. Donc là, je vous renvoie vers différentes plateformes. Tout simplement, l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi des images dans les plateformes d'open data, notamment des images géographiques, hein, des photos du territoire, orthophoto aérienne ou des documents d'archives, puisqu'il y a des archives départementales ou municipales qui passent par ces plateformes d'open data. Donc, ça peut être aussi des répertoires à connaître. Je passe également rapidement sur les licences Creative Commons, mais l'idée, c'est de bien avoir en tête que les licences Creative Commons, comme vous le voyez sur l'image à droite, hein, l'infographie à droite, ça va de ce qui est vraiment licence libre, au sens où il n'y a pas de restriction commerciale ou de modification, à des licences qui sont un peu plus contraignantes quand elles interdisent toute modification ou tout usage commercial. Pardon. Un point également sur la licence ouverte qui a été créée par l'État français en 2011 et qui est la licence de référence pour les administrations publiques aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent d'une licence Creative Commons by, c'est-à-dire qu'il faut garder la paternité, donc sourcée, hein, avec l'URL, avec le nom du service producteur ou du créateur, mais elle permet énormément de choses, et notamment les usages commerciaux. Alors, j'aborde maintenant quelques cas pratiques qui nous concernent sur la publication scientifique. D'abord, un petit rappel de ce que disent les trois grands hébergeurs ou diffuseurs de publications scientifiques en sciences humaines et sociales aujourd'hui. Du côté de HAL, il y a des pages d'information sur à la fois les licences Creative Commons et sur des questions juridiques, puisque je rappelle, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas déposer dans HAL, théoriquement, un document qui contient des images pour lesquelles on n'a pas l'autorisation de reproduction si elles sont encore protégées. Et sur Open Edition et Cairn, alors Open Edition, il y a une nouvelle politique de licence, je pense que vous êtes au courant depuis l'année dernière. Et également, pour les carnets hypothèses, il y a eu pas mal de documentation sur la maison des carnets, donc des billets très intéressants pour expliquer à la fois ce qu'on doit respecter et les bonnes pratiques. Et puis, du côté de Cairn, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais dans les conditions d'utilisation, il y a quand même ce passage qui dit que Cairn n'est pas responsable des contenus présents dans les revues, que sont donc les revues qui sont responsables. Alors, le cas le plus fréquent, c'est quand on a donc un chercheur qui veut publier un article, par exemple, dans une revue scientifique et qui a besoin d'utiliser des images. Et ça peut être des images, des numérisations d'œuvres qui sont dans le domaine public ou des images encore protégées par le droit d'auteur. Et le chercheur se trouve assez rapidement dans une position inconfortable d'entre deux, puisque d'un côté, vous avez les éditeurs, les revues qui demandent au maximum des images librement réutilisables, gratuites, libres de droit, sans problème de reproduction. Et de l'autre côté, des institutions patrimoniales ou des ayants droit qui font payer des images, qui limitent l'accès aux images en haute définition, parce qu'il y a la question de la qualité également. Et donc, dans ce cas-là, ça pose la question, qui doit payer les images? Parce que souvent, ça retombe sur les chercheurs. Il n'y a pas forcément d'argent prévu dans les labos. Sur des projets de publication type ouvrage, parfois, oui, il y a un budget qui est prévu, soit côté éditeur, soit côté université chercheur, mais ça reste quand même contraignant parce que ça peut très vite chiffrer. Hein. Ça, je pense que vous avez aussi, vous, des expériences en la matière. Ça peut très vite chiffrer sur plusieurs centaines ou milliers d'euros pour quelques images. Et ça pose aussi la question qui doit clarifier le statut juridique des images, parce qu'aujourd'hui, ça repose quand même beaucoup sur les chercheurs, sauf qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et derrière, les éditeurs ont quand même toute une vérification à refaire parce que, justement, certaines images peuvent poser problème. Donc, je vous renvoie là aussi vers un texte que j'ai déposé dans HAL il y a quelques années, où j'abordais spécifiquement cette question de l'accès au visuel en bonne qualité et leur réutilisation dans des publications scientifiques. Un exemple également tiré là, du rapport Image-usage de l'INHA en 2018, qui montre un exemple concret pour un éditeur en histoire de l'art, enfin je crois que c'est en histoire de l'art, mais à vérifier, une revue en tout cas qui a besoin d'images dans chacun de ses numéros et pour qui c'est à chaque fois un budget quand même assez conséquent. Donc le problème aujourd'hui, c'est que la redevance, le coût des images est un véritable frein dans la publication scientifique et ça oblige à avoir des stratégies qui nécessite soit de trouver des images gratuites ailleurs, soit de trouver d'autres manières de résoudre le problème. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Comment résoudre ce problème? Donc, il y a une possibilité, c'est de trouver des alternatives, aller chercher dans d'autres collections patrimoniales des équivalents qui vont être gratuits et librement réutilisables. Ça marche très bien, par exemple, pour la photographie ou la gravure, parce que, par définition, ça existe en plusieurs exemplaires. C'est beaucoup plus difficile pour de la sculpture, pour de la peinture, pour des œuvres uniques où là, vous êtes coincé par les conditions d'utilisation de l'institution qui conserve l'objet en question. Souvent, ce qui se passe, et c'est assez invisible, mais je pense que c'est important de le faire savoir, c'est qu'on renonce à utiliser des images, soit côté chercheur, soit côté éditeur, parce que ça coûte trop cher, ça pose trop de problèmes de reproduction, et donc au final, on ne met pas l'image. Alors, quand elle existe en ligne, on peut faire un lien vers l'URL, et ça évite tout problème juridique. Ou sinon, ce qui s'est fait aussi pendant longtemps, mais qui continue peut-être à se faire encore, c'est de reproduire indirectement l'image, c'est-à-dire refaire un dessin. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant que de reproduire une image, surtout quand c'est par exemple une revue en histoire de l'art où il y a un commentaire de tableau. Si on fait un dessin, ça donnera une idée du tableau, mais ce sera quand même très insatisfaisant. Et puis, d'autres possibilités, là où j'ai mis des points d'interrogation, c'est est-ce qu'on peut vraiment négocier avec les institutions ou les agences photographiques ou les ayants droit pour essayer de réduire le coût des images, ou est-ce qu'on peut trouver dans l'autre sens des sources de financement pour permettre de prendre en compte cette charge financière pour un projet d'édition. Autre cas pratique, une affaire qui malheureusement a mis fin à une revue et à une association. Donc c'est l'association Enavor qui était une association qui sur l'histoire contemporaine de la Bretagne et qui a eu le malheur de faire un article sur son site internet pour parler d'une exposition sur Robert Doisneau et d'illustrer cet article avec deux photos de Robert Doisneau. Et quelques mois plus tard, l'agence Gamma Raffo, qui possède les droits de Robert Doisneau, a mis en demeure cette association de payer 4 000 euros de frais d'exploitation, en fait. Et l'association n'a pas eu les moyens de faire face à cette demande et elle s'est donc autodissoute. Je rebondis aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce que certaines agences ou certains ayants droit, comme je le disais tout à l'heure, traquent les réutilisations et se fichent en fait de savoir si c'était un usage non commercial, non lucratif. Dans leur logique, qui est à la fois cohérente hein, d'un point de vue juridique, c'est de dire bah, c'est une contrefaçon, tout usage non autorisé sans paiement de redevance comme on le propose est une contrefaçon, donc on va aller chercher le moindre particulier, la moindre association qui fait usage d'une image sans autorisation. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a des demandes abusives, et là je vous ai mis un lien dans ce diaporama pour avoir un peu des éléments juridiques sur le fait que, attention, si vous recevez un mail d'une société qui vous demande de payer plusieurs milliers d'euros pour un usage frauduleux d'image, il ne faut pas tout de suite payer. Il y a des moyens de se protéger. Et troisième cas qui avait fait beaucoup parler dans la communauté des chercheurs, hein, c'était la manière dont Percé a publié certaines revues anciennes en masquant systématiquement toutes les images hein, par un cadre blanc. J'ai pris le cas très parlant de la Revue de l'Art, qui est une revue d'histoire de l'art pour laquelle vous avez quasiment aucune image reproduite dans Percé. Mais Percé s'en explique hein, quand on va sur la page de la revue en disant que c'est une question d'autorisation qui n'ont pas été obtenues, en tout cas pas clarifiées. Et c'est un choix qui finalement est compréhensible d'un point de vue de Percé, de dire on ne prend pas de risque avec la reproduction d'images si on n'a pas les autorisations. Et donc on préfère trouver cet entre-deux qui permet quand même de mettre à disposition le texte intégral, mais sans les images. Et ça, typiquement, si la licence collective étendue entre en vigueur, ça permettra sans doute de résoudre ce problème. Alors il y a quand même une question de rétroactivité qui se posera peut-être, on n'a pas les détails pour l'instant, mais ça pourrait résoudre ce problème. Donc voilà les questions que ça pose, c'est quelle est la responsabilité de chaque acteur dans cette chaîne de publication? Est-ce que pousser à adopter des bonnes pratiques, ça va suffire, ou il y aura toujours quand même pas mal de questions à se poser et de cas à clarifier? Et la question également, finalement, de qui vérifie le statut juridique, les questions de reproduction. Donc voilà, je vous ai mis quelques conseils, notamment savoir à qui on a affaire en termes d'ayant droit. Parce que si la tolérance existe dans 90% des cas, si vous tombez sur les 10% qui sont intransigeants, ça risque de faire des dégâts. Et puis de privilégier pour tout ce qui est publication numérique, les URL, s'il y a vraiment un doute en matière de reproduction d'images. Parce que c'est quand même une manière, je trouve, de renvoyer vers la source en question l'image sans que ce soit trop contraignant et trop handicapant parce qu'on a l'habitude de rebondir sur des liens quand on est dans une revue en ligne. Quelques bonnes pratiques également sur ce qu'on peut faire en tant qu'éditeur, donc notamment être le plus clair et explicite possible dans les recommandations aux auteurs, dans les normes éditoriales sur différents aspects, informer un maximum sur les licences possibles et privilégier, encourager le choix des licences Creative Commons ou licences ouvertes pour le dépôt ou l'utilisation de certaines images. Recommander aux auteurs des liens vers des ressources où on a des images librement réutilisables. Rendre visible le domaine public, ça je pense que c'est important aussi, et ça ne coûte rien d'indiquer quand une œuvre est dans le domaine public, même si elle est placée sous une autre licence. Et puis respecter des bonnes pratiques de citation des images ou donner accès bon à tirer pour que les auteurs puissent voir si ça leur convient, même si je sais qu'il y a aussi des contraintes éditoriales derrière. Donc là, je vous ai mis quelques exemples issus de normes éditoriales. Ils sont intéressants parce qu'ils vont quand même un peu plus loin dans le détail sur la taille des images, la qualité des images, en indiquant notamment la dimension papier hein, pour les presses universitaires de Rennes. Également, dans le rapport image-usage de l'INHA en 2018, il y avait un certain nombre de recommandations Voilà, en termes de soutien aux chercheurs et aux enseignants pour l'iconographie, et ce que peuvent faire les éditeurs, donc, par exemple, le rôle des iconographes, et puis également tout ce qui est en termes de lien avec des sociétés de gestion collective. Autre exemple d'information sur comment citer une image, ben, c'est vraiment plus facile pour les chercheurs si vous leur fournissez un modèle unique, uniforme de citation des images. Donc, par exemple, ici, pour une revue qui utilise beaucoup d'images. Ça pose aussi la question, on en discutait avec Basile là, en préparant ce webinaire. Ben, d'un côté, il y a l'obligation de citation qui est parfois très contrainte de la part d'institutions ou d'ayants droit ou d'agences photo, avec un texte à reproduire exactement, et de l'autre, l'harmonisation des légendes dans vos ouvrages ou revues. Donc là, c'est aussi pas évident, sachant que voilà, moi, je vous ai listé ce qui est de l'ordre des bonnes pratiques et ce qui est repris dans le guide de l'INHA en 2021, les différents éléments pour une œuvre d'art, en tout cas, qui sont utiles à citer dans une publication scientifique. Et puis, bah, y a un certain nombre de ressources qui existent aujourd'hui en ligne, qui sont ouvertes, donc OpenGLAM pour les institutions patrimoniales. Je vous ai mis ici les principales, mais le mieux, c'est de se reporter à l'OpenGLAM Survey qui contient la liste. Alors, par exemple, pour la BNF ou pour Numelio, attention, parce que certains usages sont payants et tout n'est pas librement réutilisable. Également, quelques moteurs de recherche ou grands sites qui vous permettent de trouver des images en licence Creative Commons. Donc, notamment Openverse, hein, qui est assez intéressant parce qu'il va piocher dans plusieurs bases et vous pouvez filtrer par licence. Donc, c'est plutôt pratique. Mais toujours bien penser à vérifier les conditions d'utilisation. Pour Gallica, il y a maintenant la possibilité de télécharger les images en haute définition. Donc, ça peut être bien, mais attention, hein, les conditions d'utilisation de Gallica font qu'actuellement, tout usage commercial non scientifique et soumis à redevance. Il y a quand même une évolution, c'est que maintenant les usages les usages académiques sont quand même autorisés. Mais Gallica n'est pas ce qu'on peut dire un open glam au sens strict, puisqu'il y a toujours des redevances qui existent. Et moi personnellement, j'utilise l'extension navigateur qui avait été créée par Sylvain Machefer, qui permet sur une page Gallica de télécharger directement la version HD. Voilà, je termine sur quelques références biblio qui peuvent être intéressantes en termes de droit d'auteur, hein, notamment tout ce qu'a fait Anne-Laure Sterrin, qui est juriste spécialiste de cette question. Également Lionel Morel, hein, sur son blog Silex, qui avait ces dernières années, notamment au début des années 2010, écrit beaucoup de choses sur ces questions. Et puis un carnet hypothèses éthique et droit en sciences humaines et sociales, avec Anne-Laure Sterrin notamment, qui contient pas mal de choses. La difficulté, c'est que ça évolue quand même assez régulièrement et il faut se mettre à jour souvent. Donc, c'est important de consulter les différentes sources. Dans le diaporama que je partagerai en ligne, je vous mettrai un peu plus de références bibliographiques, mais notamment toutes celles que j'ai citées là au cours de cette présentation, hein, par exemple les ressources de l'INHA. Voilà, donc bah, merci pour votre écoute. Et puis maintenant, on peut passer au temps d'échange. Avec notamment, j'imagine, des retours d'expérience ou des questions spécifiques que vous avez.
Merci Damien pour cette présentation très intéressante. Voilà, donc, bah, s'il y a des questions, si vous souhaitez rebondir, discuter de sujets particuliers, c'est le moment.
Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Prends la parole. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation très claire, très instructive et je pense répond à beaucoup de situations auxquelles on est confronté en tant qu'éditeur et éditrice. Moi, je voulais juste faire part d'un témoignage concernant la dernière parution de la revue dans laquelle je m'occupe. En fait, on a un article qui a été soumis et qui comportait un certain nombre d'images de la presse, et en fait c'était à propos d'un Sans Souki qui devenait une icône à travers des images de presse tout au long de son parcours politique, et les auteurs n'avaient pas du tout anticipé ces questions de droit et pensaient d'abord que ça allait être publié seulement en ligne, une revue qui est publiée en ligne et en version papier. Et c'est vrai que moi, ça n'a pas fait tilt assez tôt dans ma tête. C'est ça aussi que je voudrais dire dès qu'il y a des images. Je pense qu'il faut vraiment être très vigilant en amont du processus éditorial. Et quand je me suis vraiment penchée sur la question, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, j'ai quand même demandé aux auteurs, aux autrices de réclamer les droits auprès des détenteurs de droits des auteurs des photos. Et en fait, on s'est rendu compte que sur la moitié des illustrations, ça n'allait pas être possible, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour la version papier, alors que c'est un article qui porte sur des images. Garder tout son intérêt et... Alors, pour la version en ligne, il y avait la solution des liens, comme vous l'avez évoqué, vers les articles de presse. Et pour la version papier, ben, j'étais contrainte, finalement, de faire des QR codes. On a choisi parmi les images dont on avait les droits, on a choisi les plus significatives, les plus importantes, et pour les autres, faire un QR code avec toutes les éléments de citation, les éléments juridiques, et ce qui fait quand même quelque chose d'assez paradoxal en définitive, puisque c'est un article qui parle d'image, d'iconisation, et avec, enfin en tout cas pour la version papier, avec quasiment aucune image. Donc voilà, c'était pour donner un témoignage. Et on a pensé à un moment justement faire des dessins, des croquis à partir des photos qui intéressaient les autrices, donc toujours des photos de presse. Et en fait, en fouillant un peu, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il fallait, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, demander l'autorisation quand même à l'auteur de la photo, pouvoir faire un dessin à partir de cette photo et ensuite la publier, et en demandant évidemment l'autorisation de l'auteur des dessins. Donc je ne sais pas si c'est une question de droit dérivé, peut-être vous allez pouvoir répondre à cette question, mais il me semblait que ce n'était pas aussi simple que ça de faire des dessins à partir de photos qui sont protégées par le droit d'auteur. Voilà. Et puis juste avant de terminer, une dernière question à propos de l'open access. Dans le cadre de la directive européenne, si j'ai bien compris, hein, la directive copyright et l'assouplissement, est-ce que ça doit être open access complet? Enfin, par exemple, dans le cadre du programme Freemium, dans la mesure où ça génère des revenus, est-ce que c'est aussi valable ou bien ça concerne vraiment que l'open access type archive ouverte ou, qui ne génère pas de revenus. Voilà.
D'accord. Ben, merci pour votre témoignage et ces questions. Alors, sur la licence collective étendue, c'est en cours actuellement, et moi, j'ai très peu d'infos sur le sujet, notamment sur toutes ces questions. Est-ce qu'il y aura rétroactivité? Est-ce qu'il y aura ces questions de freemium? Quel sera le périmètre en fait, exact qui permettra la réutilisation sans autorisation d'images protégées? Je pense qu'il y a quelques éléments déjà dans l'étude de 2022, parce qu'elle a vraiment porté sur des corpus open access type percé, open edition. Et après, sur la question des dessins, effectivement, moi, j'avais plus vu le cas pour des dessins, pour des œuvres du domaine public qui coûtaient trop cher en termes de redevances dans des musées français ou étrangers, et où là, les auteurs avaient choisi de faire un croquis assez simplifié d'ailleurs pour montrer quand même à quoi ça ressemblait. Pour des images protégées, effectivement, alors je ne saurais pas trop dire dans le détail, mais je sais qu'il y a un système d'autorisation quand même à demander. Par exemple, si vous faites un dessin automatiquement avec un logiciel à partir d'une photo, ben là, c'est même pas une création originale. Et on est typiquement dans le cas de la reproduction fidèle. C'est qu'une reproduction fidèle, si elle est vraiment fidèle, ben, elle n'est pas originale. Donc, et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement sans doute le droit d'auteur de la photo qui a été utilisée pour copier qui entre en jeu. Après, quand je pensais plutôt à des dessins qui permettent de simplifier en montrant schématiquement à quoi ressemble la photo, mais c'est quand même très insatisfaisant d'un point de vue reproduction, parce qu'on ne donne pas accès aux documents iconographiques et on donne accès à quelque chose de dégradé qui qui peut avoir un intérêt dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça reste quand même pas satisfaisant.
Merci Damien. Il y avait une question de Rénal. Bonjour Rénal. Rénald, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu avais une question, une intervention?
Là, vous m'entendez?
Ouais, on t'entend.
Oui, pardon. Donc, effectivement, c'était dans le sens d'un témoignage par rapport à des images dont on ne peut acquérir les droits. Donc, moi, j'ai eu le cas sur un ouvrage. Alors, il s'avère que c'était un ouvrage en STM. Effectivement, on avait un certain nombre de, enfin, on avait beaucoup d'illustrations qui étaient vraiment totalement hors de prix. Et donc, on a fait le choix de faire appel à un illustrateur et qui a travaillé sur l'ensemble. Alors, on a fait un paquet finalement pour lui confier un certain nombre d'illustrations et pas de manière isolée. Parce que voilà, ça lui a permis vraiment de s'immerger complètement dans l'ouvrage. Et comme il est illustrateur de bande dessinée, il a réellement pu créer des œuvres et avec sa patte. Et ça donnait aussi une vraie homogénéité à l'ensemble des, enfin, à un certain nombre d'illustrations de cet ouvrage qui, par ailleurs, en comportait 800. Voilà, donc ça a un coût, c'est évident, mais premièrement, sur un tel ouvrage, moins élevé que si on avait dû payer des droits de reproduction à des sociétés, là en l'occurrence américaines. Et puis, ça nous a apporté réellement une plus-value au niveau de l'ouvrage parce qu'il y avait cette unité d'illustration faite par une personne qui a pris vraiment la mesure et le temps de s'immerger pleinement dans cette publication-là. Voilà, c'était juste pour ce témoignage-là.
Ben, merci, parce qu'effectivement, oui, c'est une solution qui, comme vous le dites, apporte une plus-value qui ne peut pas marcher pour chaque publication, évidemment, mais quand ça vaut le coup comme ça et qu'on calcule d'un côté combien ça coûterait en droit de reproduction et de l'autre, on explore une autre solution qui, en plus, apporte une plus-value, effectivement, ça me semble très intéressant comme... Dans la dimension alternative possible, oui, c'est intéressant comme témoignage.
On a aussi une question sur le chat de Julien Desmarais qui nous demande, si j'ai bien compris, jusque 1993, on ne pouvait pas publier une photo de la Tour Eiffel sans autorisation des ayants droit, puisque Monsieur Eiffel est décédé en 1923.
Je le saurais. Sans doute que c'est bon pour la date, effectivement, puisque si ça correspond à la date de la mort de l'architecte, enfin, du sculpteur, plus les 70 ans. Effectivement, la Tour Eiffel, elle est suffisamment originale pour être protégée par le droit d'auteur. Et sachant qu'aujourd'hui, je crois, à vérifier, mais que la mise en lumière de la Tour Eiffel de nuit est protégée par le droit d'auteur parce qu'on considère que c'est une création originale. Vu que c'est un bâtiment original, il a fallu le mettre en lumière d'une certaine manière. Et donc, il faut faire attention parfois un bâtiment ancien, un édifice ancien peut encore avoir des protections, soit parce qu'il a été réhabilité. C'est par exemple le cas à Lyon, là, le stade de Gerland, qui a été réhabilité plusieurs fois, remodifié. Il y a certaines parties qui sont dans le domaine public et d'autres non. Et tout ce qui est mise en lumière d'édifices la nuit, effectivement, peut être protégé aussi. Hein. Donc, une image de jour, une image de nuit, ce n'est pas la même chose aussi en termes d'autorisation.
Pardon, de nouveau, Rénal, je me permets simplement, parce que moi, j'avais justement une formation avec Anne-Laure Sterrin et qui nous avait précisé particulièrement pour la Tour Eiffel, même si ça peut être anecdotique l'histoire de la Tour Eiffel par rapport à nos publications, mais que l'image, la photographie de la Tour Eiffel de jour n'était pas protégée, que seule, effectivement, la mise en lumière à la nuit tombée était protégée parce que c'était vraiment une création originale et puis pour le coup pleinement actuelle. Mais moi j'avais retenu, alors j'ai pas retrouvé l'information dans ces cours, mais que sur la question de ces bâtiments, en fait seuls très peu de ces bâtiments publics étaient réellement protégés il y avait de mémoire 8 bâtiments patrimoniaux vraiment protégés par le droit d'auteur, mais dans les bâtiments un peu anciens. Mais voilà, c'était vraiment des exceptions, type le Mont-Saint-Michel était protégé, et l'Élysée, mais il y en avait finalement assez peu.
Après, il y a une subtilité récemment là, dans la, je ne sais plus exactement quelle loi, mais les domaines nationaux ont récupéré la maîtrise de leur image. C'était Chambord notamment qui avait oui. pour ça, parce qu'il y avait des publicités. Donc les domaines nationaux, effectivement, là, il y a demande d'autorisation, même si c'est que du domaine public en termes au sens droit d'auteur, hein, mais il y a une demande d'autorisation à demander, à faire. Et par contre, après, en termes de bâtiments suffisamment originaux, il y en a beaucoup hein, dans nos villes, des bâtiments récents. Par exemple, ben, nous à Lyon, on a le musée des Confluences, mais vous pouvez avoir toutes ces nouvelles constructions qui font appel à des architectes réputés et qui ont une architecture très originale. C'est pareil pour les aménagements de places aussi faits par des urbanistes ou artistes, où là, on, pas souvent, ils sont encore vivants d'ailleurs, ces gens-là. Et en fait, le critère de l'originalité s'apprécie en cas de litige devant un juge. Et il y a déjà eu des cas de jurisprudence qui ont dit que même si tel bâtiment avait été construit par un architecte très connu, ben, il n'était pas suffisamment original pour entrer dans ce cadre-là. C'était un bâtiment de bureau, par exemple, là, dans le cas auquel je pense. Donc ça, c'est vraiment, ça s'apprécie au cas par cas. Et on peut essayer, enfin voilà, faut essayer de se renseigner un maximum parce que parfois le droit d'image peut aussi appartenir à l'institution, à la structure qui a repris les droits à l'architecte moyennant finance, je pense, parce que c'est plus facile pour une structure de gérer elle-même les droits de reproduction de son bâtiment. Donc ça, après, il faut pas hésiter à se renseigner sur ces aspects-là.
Donc, je viens de démarrer, Mozy, du coup, je suppose qu'on ne peut pas reproduire la parodie d'une image publique sans autorisation du parodieur si celui-ci est toujours vivant.
Bonne question. Bonne question. Puisqu'effectivement, le parodieur a le droit de faire sa parodie. Est-ce qu'on a le droit de reproduire sa parodie? Là, j'avoue que c'est assez subtil et je ne sais pas s'il a. Ouais, j'imagine que théoriquement, si on suit le principe, le parodieur, lui aussi, disposerait d'un droit d'auteur sur sa création. Donc théoriquement, oui, ce serait ça, il faudrait aussi demander l'autorisation, ou alors parodier soi-même la parodie pour pouvoir réutiliser.
Ouais. Et Marie, je ne sais plus si c'est cette question-là que tu avais posée sur la liste Medici. Marie Gillet nous demande si on doit demander les droits à l'auteur d'un tweet ou d'un post Facebook pour pouvoir le reproduire dans un ouvrage. Je sais qu'on en a discuté un peu.
Ouais, alors moi je ne suis pas au point là-dessus. Je sais qu'il y a eu des discussions ces dernières années sur le sujet. Mais ouais, ça je ne saurais pas dire exactement parce que d'un côté ce sont des tweets et posts publics qui sont aussi dans le cadre des conditions d'utilisation de ces réseaux sociaux. Je dirais que là, il y a la question de la bonne pratique et la question de juridique et ouais, à creuser. On va essayer de se renseigner parce qu'effectivement, c'est un cas qui est de plus en plus fréquent de vouloir réutiliser ça. On n'a pas abordé aussi la question des captures d'écran. Ça, c'est aussi théoriquement, si on suit la loi, les captures d'écran ne sont pas autorisées sans autorisation explicite. Mais par exemple, il y a une tolérance pour les couvertures d'ouvrages. Souvent, on voit qu'il y a une tolérance quand il y a un article qui commente un ouvrage qui reproduit la couverture parce que ça fait aussi de la publicité à l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment après des questions de tolérance qui s'apprécient suivant les personnes concernées, les acteurs concernés. Et je pense que... Il faut toujours avoir en tête que dès qu'on sort du cadre très restrictif de la loi, on prend des risques, alors plus ou moins mesurés, mais comme la loi est quand même assez inadaptée sur ces questions-là, voilà, j'ai montré tout à l'heure le choix qu'avait fait Percé, qui était hyper restrictif. D'autres hébergeurs ont fait d'autres choix, mais qui sont peut-être un peu plus risqués. Et après, c'est à chacun, en fonction de son projet d'édition et des risques possibles, parce que comme vous le voyez, hein, sur les demandes abusives là, d'indemnité pour utilisation frauduleuse là, que Getty Images, l'AFP ou autres font désormais, ça peut très très vite chiffrer. Et c'est sûr que si ça n'a pas été anticipé et qu'on se prend une demande d'indemnité de plusieurs milliers d'euros et qu'on n'est pas armé pour y répondre, ça, c'est très complexe et ça a concerné beaucoup de monde ces dernières années, hein, des particuliers, des associations, des administrations qui ont toutes eu ce problème-là parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de vigilance dans le choix de l'image et dans l'anticipation de cette question-là.
On peut prendre encore une ou deux questions avant de terminer, s'il y en a. Et sinon, n'oubliez pas de bien remplir le petit Framaform là, que Céline a fait passer dans le chat. Voilà, avec le petit questionnaire d'évaluation. Et Cédric, ouais. Bonjour.
Salut Basile, tu m'entends ?
Oui, on t'entend bien, ouais. Salut.
Ok. Bah, bonjour à vous deux et merci pour cette conférence qui était bien intéressante. Moi, je voulais juste parler d'un cas pratique qu'on a eu récemment là, sur l'idée de redessiner en fait, une photo pour éviter de payer les droits. En fait, nous, il y avait un design de bibliothèque, une architecture d'une bibliothèque danoise. Et donc, on est parti d'une photo, on a demandé à un illustrateur en fait, de nous faire un dessin à partir de cette photo, sauf que en fait, ça implique deux droits d'auteur dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a notamment le bâtiment, l'architecture du bâtiment, qui est une architecture moderne, donc qui est certainement sous droit, parce que l'agence a dû déposer en fait, l'image de leur bibliothèque. Et en plus, il y a la photographie qui a été prise à partir de laquelle on a demandé de faire le dessin. Et donc, le photographe, lui aussi, peut éventuellement revendiquer un droit d'auteur dessus, quoi. Donc, des fois, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que dans une même image, on peut avoir plusieurs droits d'auteur qui vont chevaucher les uns par-dessus les autres. Et je voulais juste apporter alors là un petit témoignage sur la reproduction de tweets ou de Facebook. Moi, j'avais lu que si c'est que du texte, je ne parle bien là que du texte et pas des images, s'il n'y a que du texte, ça peut être considéré comme un communiqué de presse, donc qui nativement est produit pour être récupéré et reproduit derrière. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, ça ne tomberait pas sous le coup du droit d'auteur. Donc, mais ça, je l'ai lu que sur un site et je pense que ça mériterait d'être vérifié. Mais voilà, c'était juste pour enrichir la réflexion là-dessus.
Merci, voilà. Cédric. Il y a encore une petite question sur le chat. Florence Neveu qui nous demande, est-il possible de réutiliser librement, comme des données publiques, les photographies de terrain prises par un ou une chercheuse CNRS sur son terrain est consultable en accès ouvert dans un entrepôt de données.
Alors, ouais, c'est très bien cette question parce que ça rejoint aussi une mission que j'ai avec des collègues en BU. Là. C'est toute cette question des données de la recherche et le fait que, oui, donc des chercheurs qui sont payés par le public, qui produisent des contenus dans le cadre de leur mission, on les encourage fortement à déposer dans des entrepôts de données. Et surtout à choisir une licence précise qui permet, ben voilà, une licence Creative Commons, une licence ouverte, qui permet clairement à chaque réutilisateur de savoir ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire en termes d'autorisation, voilà, commerciale, modification ou pas. Et surtout, l'avantage des licences, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par cette phase de demande d'autorisation, qui est quand même très lourde, y compris même pour les producteurs d'images, hein, parce que si... on est contacté tous les quatre matins pour des demandes d'autorisation, ça peut vite être embêtant. Donc, l'avantage des licences, c'est que c'est clarifié au moment du dépôt et que derrière, voilà, on se reporte à ça. La question qui se pose, c'est quand il n'y a pas de licence. Quand il n'y a pas de licence, théoriquement, on est dans du tout droit réservé. Et le truc, c'est que je ne pense pas que le caractère public de la mission joue ici parce que, en tout cas, je peux parler, moi, pour ce qui est des chercheurs, les chercheurs ont cette particularité, les chercheurs publics et enseignants-chercheurs publics, de garder un droit de propriété intellectuelle sur leur production. Donc, ça s'applique également aux images ou, par exemple, en géographie, tout ce qu'on produit en termes de cartographie, c'est protégé par le droit d'auteur. Donc, j'imagine qu'une photographie d'un géographe ou d'un sociologue ou autre de terrain, s'il n'a pas choisi de la placer sous une licence ouverte ou libre, oui, ça s'applique comme n'importe quelle autre image. Après, là, dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile de contacter la personne, négocier avec elle ou avec son institution, suivant les usages possibles.
Eh bien, merci. Merci à toutes et tous pour votre attention. Merci à Damien pour cette présentation très claire. Donc, personnellement, je repars avec quelques idées de mise en place sur nos plateformes. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Céline, si tu veux dire un petit mot.
Merci beaucoup à Damien et à toi, Basile, pour l'organisation de ce premier webinaire et à tous les collègues qui ont participé pour leurs questions très intéressantes qui vont beaucoup nous aider, je pense, à avancer collectivement sur ces questions des images. Donc, juste pour vous dire, on avait mis un petit lien pour le questionnaire d'évaluation, pour voir si le format convient bien toujours, etc. Donc, nous vous invitons, et puis le contenu, bien sûr, à y répondre. Ça prend quelques petites minutes, et puis vous dire que donc il sera disponible en replay l'espace canal U en fait de Medici. Le diaporama, on le mettra dans la collection HAL de Medici. Voilà, on reviendra prochainement vers vous avec ces différents éléments. Et je vous propose du coup au comité de pilotage de Repères et de Medici et Damien de rester juste quelques minutes, comme ça on débrief ensemble. Et je souhaite à tout le monde un très bon appétit et surtout un très bon week-end. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis.